gonna get my baby one time.
Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Rock in Progress, l'émission qui nous parlera de la riche histoire du rock progressif. Bien que le but de l'émission sera de parler de rock progressif, de l'histoire et de l'esthétique du genre, ce premier épisode n'en parlera pas directement. Je vous propose plutôt un voyage au cœur de la fin des années 60 et de recenser, à travers la musique et quelques événements historiques, les conditions d'apparition du rock progressif, du moins celui auquel on pense aujourd'hui lorsqu'on mentionne le terme. Car oui, ce genre n'a pas toujours été lié exclusivement au groupe dont nous parlerons ce soir et dans les soirées suivantes. Alors d'où ça vient, rock progressif? Eh bien tout d'abord, ça vient du rock, hein. Ça vient d'Elvis Presley, de Chuck Berry, de Bill Haley, je vous les présente plus, hein. Ça vient d'un mélange du blues afro-américain et de country blanc américain, d'où la réputation de musique de noir jouée par les blancs qui a longtemps poursuivi le rock'n'roll. Entre 15 et 20 années séparent la naissance de ce mélange et l'âge d'or du rock progressif. À cette époque, c'est donc un genre encore adolescent, malléable et en quête d'identité. Les années 60 le montrent bien, hein, le British Blues Boom des Rolling Stones, de Cream ou de Rory Gallagher, ainsi que sa petite sœur, la British Invasion, des Shadows, des Who, des Animals, mais surtout des Beatles. En à peine 10 ans, le rock se situe déjà bien loin de ses origines, au point où sa terre d'accueil semble être l'Angleterre plutôt que les États-Unis. Et progressif, d'où ça vient alors ? Bah, le musicologue belge propose une réponse dans sa thèse intitulée « Le rock progressif anglais ». Il nous apprend que le terme vient de la presse de 1966 où la pop progressive, excusez-moi, qualifiait la nouveauté et l'inventivité de Pet Sounds des Beach Boys. Thank you. C'était Caroline No des Beach Boys, issu de l'album Pet Sounds, sorti en 1966, et qui serait l'album qui aurait lancé l'histoire du prog, selon Christophe Pirenne. Le terme pop progressive est lui-même calqué sur le progressive jazz des années 50, qui désignait l'avant-garde du jazz, qu'on nommerait aujourd'hui le jazz moderne. À l'époque des Beach Boys, être qualifié de rock progressif était surtout un atout marketing et la preuve que la pop, ça pouvait être quelque chose de divertissant, mais aussi d'artistique. La composition se développe, les arrangements s'enrichissent et on rivalise d'ingéniosité pour devenir le chef de file d'une nouvelle avant-garde musicale populaire. En témoigne la course incessante entre les Beach Boys, qui alternaient les albums pour montrer au monde qu'ils étaient les plus audacieux, et les Beatles, dont voici l'extrait « Tomorrow Never Knows ». Tomorrow Never Knows, issu de l'album des Beatles Revolver, sorti lui aussi en 1966. Ainsi, le rock progressif, ou plutôt son appellation, serait plus vieille que le genre auquel on pense aujourd'hui, et surtout, elle était bien plus populaire et appréciée qu'aujourd'hui. Mais que s'est-il passé ? Sans trop m'avancer, je dirais juste qu'il y a eu les chocs pétroliers et le punk, mais ce seront des sujets pour un futur épisode. Dites-vous toutefois que Jimi Hendrix, Eric Clapton, l'ère Syd Barrett de Pink Floyd, les Beatles, les Who et bien d'autres ont parfois été raccrochés au genre du rock progressif, aussi bien dans la presse que lors des annonces en festival. Pour l'anecdote, j'ai découvert lors du visionnage d'un documentaire sur Jimi Hendrix que celui-ci était effectivement annoncé comme la nouvelle star du rock progressif. Même Leonard Bernstein, compositeur américain de musique dite savante, plus connu pour son opéra Candide ou sa comédie musicale West Side Story, a eu droit à son classement rock progressif dans les bacs des disquaires pour sa messe, publiée en 1971. Être prog à l'époque, c'est être tendance, avant-gardiste. Et pourtant, ces artistes rock que je viens de vous citer aucun d'entre eux n'est aujourd'hui classé par la presse ni par les historiens dans le rock progressif. Ils sont psychédéliques. Quelle différence ? Le psychédélisme, selon Alain Pierre cette fois, se divise en deux branches. Celle de studio, représentée par les Beatles, les Who ou les Beach Boys, ou encore les Moody Blues, qui utilisent de nouveaux sons extérieurs au rock, comme le sitar ou l'orchestre symphonique, mettent en avant la polyphonie vocale, et parfois s'éloignent des structures en couplets-refrains traditionnels, tout en restant aisément diffusables en radio. Je vais sûrement paraître pour un fanboy, mais de cette branche-là, je vais encore une fois vous diffuser un extrait des Beatles, cette fois-ci qui sera Because, tiré de l'album Abbey Road. Because des Beatles, tiré de leur plus célèbre album Abbey Road, sorti en 1969, et morceau que vous connaissez peut-être pour avoir été la musique de la bande-annonce de Valérian il y a de cela 5 ans. La branche studio du psychédélisme a beaucoup participé au développement technique des studios d'enregistrement de l'époque, avec la nécessité de créer petit à petit des magnétophones à 8 pistes, puis à 16 pistes pour enregistrer encore plus de parties différentes et pouvoir avoir un arrangement beaucoup plus riche lors des enregistrements et des mixages. La seconde branche du psychédélisme, celle du live, est incarnée sans surprise par Jimi Hendrix, Eric Clapton ou encore Jeff Beck, qui s'inspire du blues et de l'improvisation jazz. Ces deux styles se retrouvent par ailleurs dans la fréquente utilisation des standards, les tubes du blues et du jazz repris par nombre d'artistes, comme par exemple ici Under a Bad Sign, chanson de Albert King, reprise par Cream en 1968. Born under a bad sign, I've been down since I began to crawl. Wasn't a bad love, I wouldn't have no luck at all.
bad luck and trouble's my only friend. I've been down ever since I was 10, born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't a bad luck, I wouldn't have no luck at all. No wine and women, it's all I crave. The big bad woman, they're gonna carry me to my grave. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. And troubles been my only friend. I've been down ever since I was 10, born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck. If it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. Born under a bad sign. Born under a bad sign.
C'était Born Under a Bad Sign, chanson de Albert King, reprise par Cream en 1968, un des nombreux exemples des standards repris par les groupes de rock psychédélique de l'époque, comme Jimi Hendrix et son fameux Hey Joe, attribué à ce jour à Billy Roberts. Pour la petite anecdote, Born Under a Bad Sign possède un extrait de sa version live dans le générique de l'émission. À vous de le retrouver. En concert, les musiciens sont libres d'improviser autour de ces standards, très longuement, pour coller à l'ambiance proche de la transe du public qui était la plupart du temps sous les effets de drogue, dont la plus connue est le LSD. Il n'est pas rare que l'interprétation d'un standard de 2 minutes devienne un prétexte à 20 minutes de développement de solo, encore une fois comme c'est le cas pour Born Under a Bad Sign, essentiellement de guitare, mais aussi de basse et de batterie, comme dans Cream, et même de clavier, comme ici dans Hang On to a Dream de The Nice.
What can I do? She still sees us through with all we see. What will I find? I still can't see why. She says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? Thank you. What can I do? There's no love in you. It's all a dream. How can we hold on to dream? How can I dream of it for where it's at? How can we hold on to dream?
C'était Hang On To A Dream de The Nice, où le claviériste Keith Emerson joue à sa manière dans la cour de Jimi Hendrix, de par sa virtuosité théâtrale et innovante, mais cette fois-ci non pas inspiré du blues, mais de la musique baroque et classique. Retenez bien ce nom, chers auditeurs et auditrices, il se peut qu'il soit important pour la suite de notre histoire du rock progressif. J'aimerais toutefois terminer sur le psychédélisme avant d'entrer dans le vif du sujet. On le sait désormais, à la fin du Flower Power, les mouvements sociaux de 68, la dissolution des Beatles, oui, encore eux, marqueront la fin de la popularité du genre psychédélique. Des artistes de l'ombre, souvent connus pour leur qualité de musiciens de session, dont Jimmy Page est l'exemple le plus connu, ou ayant largement tourné grâce au réseau des concerts universitaires, vont pouvoir progressivement faire la lumière sur leurs talents. Ils sont expérimentés et cultivés. Londres verra alors naître le hard rock, directement issu du psychédélisme live avec Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep ou encore Wishbone Ash. Et bien que ces groupes soient révolutionnaires en leur temps et en plaçant la guitare au centre de leur musique, nous n'en écouterons pas aujourd'hui. Désolé. Au nord, dans les Midlands, terres industrielles du pays, naît à peu près à la même période le heavy metal, musique sombre et torturée, inspirée par les bruits des usines, le cinéma d'horreur et le rejet du psychédélisme sous toutes ses formes, vu comme un genre de hippie bourgeois qui ne connaissent rien de la réalité de l'ennui et de la misère des classes ouvrières. Par conséquent, dans cette nouvelle forme de rock, le blues disparaît au profit d'une musique d'inspiration plus médiévale, utilisant les modes de l'Église catholique. Même si nous n'en écouterons pas non plus, nous pouvons parmi les groupes les plus célèbres citer Black Sabbath, évidemment, mais aussi Nazareth et plus tard Judas Priest ou encore Saxon avant même l'arrivée de la New Wave. Celles et ceux d'entre vous qui suivent remarqueront, judicieusement, que je n'ai pas mentionné l'héritier direct du psychédélisme de studio. En fait, cet héritier n'existe pas vraiment et il est partout à la fois puisque le hard rock, le glam rock et le prog rock utilisent toutes ces avancées de l'enregistrement à divers degrés en le mélangeant à l'héritage du psychédélisme de live. Quant au mouvement psychédélique, sa popularité déclina, mais le genre perdurera avec des groupes comme Quintessence ou Hawkwind, qui moderniseront le genre tout en conservant ses kaléidoscopes pétants et sa répétitivité, idéale pour entrer en transe avec le public. Ce qui est d'ailleurs le cas sur ce morceau de Quintessence intitulé Dive Deep.
Oh, not me. When I was just a little boy, I told my mother, I said, Mama, Mama, I want to grow up and be a wise old man. But she looked at me tenderly and she said, Son, you got to dive deep, deep into your mind and into your heart if you want to find the gem of true love. From north to south, I cried the love with my heart. I said, true love, where art thou? And one day a holy man, he came and he said, Son, you got to dive deep, deep into your mind if you want to find the thing you're looking for.
C'était Dive Deep de Quintessence, paru en 1971 sur leur album du même nom, Dive Deep. J'ai longuement hésité entre Quintessence et Hawkwind, et je ne peux que vous conseiller l'écoute de ces deux groupes, tant leurs différences représentent malgré tout la variété du psychédélisme, bannière sous laquelle ils parviennent néanmoins à se ranger par leurs nombreux et mésestimés points communs. Mais alors, pourquoi nous attarder un épisode entier sur le psychédélisme plutôt que d'entrer directement dans le rock progressif ? Eh bien, tout simplement parce que le premier est la condition d'existence du second. Et oui, car alors que le psychédélisme s'approche de son déclin, écoutons ce que Jethro Tull, pour son premier album This Was, paru en 1968, propose comme musique inspirée par le blues et l'improvisation psychédélique, alors que 3 ans plus tard, le groupe sera reconnu comme un des piliers majeurs du rock progressif. Écoutons comme exemple le titre Dharma for One, tiré de ce même album. C'était Dharma for One, tiré de l'album This Was de Jethro Tull, sorti en 1968. Un exemple parfait qu'exerçait encore le psychédélisme sur les musiciens du futur rock progressif. C'est avec ce morceau, hélas, que nous devrons faire nos adieux au rock psychédélique, tout comme Jethro Tull semble leur faire leurs adieux, et que je me dois de vous présenter mes adieux. Nous nous retrouverons mardi prochain à 22h pour parler de l'an 1969, année charnière du rock psychédélique, et surtout du rock progressif. Pardon, excusez-moi, la langue fourche. C'était Guillaume pour Rock in Progress. Vous pourrez retrouver l'émission sur le site de la radio Syllab. Bonne semaine à toutes et à tous.